Chapitre 74. Un vent violent siffle à l'extérieur et les bourrasques font trembler les fenêtres de la maison. La corde accrochée au mât du drapeau claque à un rythme effréné tandis que des feuilles et des brindilles tourbillonnent dans un sifflement violent. Moa ne porte que sa culotte et un soutien-gorge de sport noir. Eric a enlevé sa chemise, mais garde son pantalon. Quand la panne de courant survient, ils sont en train de s'embrasser et de se déshabiller. En riant, ils traînent ensemble le gros matelas du lit jusque dans le salon et l'installent devant la cheminée. Ils s'asseyent tout près l'un de l'autre, se tiennent la main et boivent de la grappa dans de petits verres arrondis. Le feu crépite et sa lumière chaude pulse doucement dans la pièce comme des battements de cœur apaisés. La chaleur fait rosir les joues de Moa. Elles posent leur verre vide sur la tablette de la cheminée. Les flammes se reflètent dans la rangée de fenêtres qui donne sur le jardin plongé dans l'obscurité. Elle l'embrasse sur la joue. Il tourne la tête et rencontre ses lèvres. Leur baiser se fait plus intense. Elle enlève sa brassière, passe ses doigts dans ses cheveux courts, fait glisser le petit cœur doré accroché à la chaîne jusqu'au creux de sa gorge, s'allonge sur le dos et le regarde dans les yeux. Eric s'agenouille en écartant ses jambes de part et d'autre des siennes, se penche en avant et pose ses mains sur chacune de ses épaules. Il embrasse sa bouche, descend un peu, embrasse les motifs sinueux de son tatouage, puis son pubis. « Tu as bien mis le son de ton téléphone au cas où le commissaire appelle ?» plaisante-t-elle. Eric hoche la tête et commence à descendre sa culotte le long de ses cuisses. Un filet de liquide s'étire entre son sexe et la dentelle humide. Le vent hurle dans la cheminée. Il embrasse ses poils noirs épais et sent l'odeur acidulée qui émane d'elle. Soudain, les flammes des bougies sur la table basse vacillent. Il se lève, regarde vers la cuisine et l'entrée, puis enlève son pantalon et s'en débarrasse. La lumière du feu éclaire les branches du bouleau pleureur dehors. Une boule de poussière roule sur le parquet, poussée par un courant d'air. Il l'observe. Elle a retiré sa culotte, croisé les chevilles. Ses yeux brillent d'un éclat sombre. « Qu'est-ce qu'il y a ?» murmure-t-elle. « Tu es incroyablement belle, » dit-il. « Non, » réplique-t-elle en souriant. « Trop belle pour moi. » Elle saisit sa main, la tire contre elle, écarte les cuisses, l'embrasse, caresse son dos et gémit bruyamment lorsqu'il la pénètre. Yuna roule avec les gyrophares allumés sur la route 55 en direction d'Uppsala. Il veut être présent pour l'arrestation de Lars Grint. Il rattrape une petite voiture rouge, klaxonne et la dépasse par la droite en mordant sur l'accotement. La tempête progresse rapidement et pousse d'énormes masses d'air devant elle. Les arbres plient, des branches se brisent, des objets volent au-dessus de la route et se coincent dans les glissières centrales. Après avoir appris que la voiture et la propriété de Grilby appartenaient à Lars Grint, Yuna est partie immédiatement tout en essayant de joindre Hugo. Il tient fermement le volant à deux mains pour contrer les rafales. Sur le réseau Raquel, il apprend que la police a émis une alerte nationale et lancé un avis de recherche pour la nouvelle Tesla du Dr. Grint. Une unité d'intervention de Stockholm se prépare à donner l'assaut contre le domicile du médecin. Yuna connaît Thor, le chef d'équipe. Il y a bien longtemps, dans une autre vie, ils ont traqué Jurek Walter dans une maison isolée à une cinquantaine de kilomètres d'ici. Thor était téméraire, mais Yuna craint que dans ce cas, il ne sous-estime la dangerosité de l'adversaire. Les flocons de neige traversent la route à l'horizontale, comme des projectiles. Yuna écoute les informations. La tempête Eyolf a atteint la côte. Elle a déjà détruit des jetées, fait échouer des bateaux, arraché des toitures et renversé des milliers d'arbres. Dans le nord, la circulation ferroviaire est paralysée. L'agence météorologique a émis une alerte rouge sur tout le pays. La population est priée de rester chez elle. Les services d'urgence et les hôpitaux sont sur le pied de guerre. Face à Yuna, en sens inverse, un SUV est déporté par une rafale et frotte la glissière de sécurité. Les messages se succèdent sur l'écran de la voiture. Aucun avion ni hélicoptère ne peut décoller, et de plus en plus de routes le long de la côte sont fermées. Yuna appelle Hugo pour la cinquième fois, mais tombe encore sur la messagerie vocale. Il voudrait lui parler, le convaincre de quitter la clinique, lui demander d'enfiler ses vêtements et de partir. Yuna ne veut pas que Hugo soit présent lors de l'assaut. Il est peu probable que le docteur lui fasse du mal, mais dans la panique, il y a toujours le risque d'une prise d'otage. Une branche d'épicéa et des pommes de pin traverse l'asphalte avant de disparaître dans le fossé, de l'autre côté de la route. Le conducteur devant Yuna perd le contrôle de sa voiture, percute le terre-plein central, part en tête à queue sur la bande d'arrêt d'urgence et traverse l'herbe haute avant de s'arrêter dans le fossé. Quand Yuna passe à sa hauteur, il voit le conducteur avec son téléphone à l'oreille. Il accélère à nouveau et, à l'approche d'un bosquet, il remarque que les arbres penchent dangereusement. Il essaie de rappeler Hugo. Toujours rien. Soudain, quelque chose frappe la vitre latérale. Une violente bourrasque est en train de balayer les champs, arrachant les touffes d'herbe, couchant les buissons et détruisant un mirador de chasse. Des arbres sont brisés et d'autres sont déracinés dans un fracas de terre et de pierres. Yuna freine brutalement au moment où deux grands pins s'abattent en travers de la route et brisent la barrière de sécurité. La voiture oscille, chasse vers le bas-côté et finit par s'arrêter. Des débris fouettent la carrosserie. Yuna recule vers le fossé, fait demi-tour et repart en sens inverse. Il décide de rejoindre l'autoroute E18 en direction de Stockholm, puis de tenter la route 267 vers Uppsala. Le rideau de neige s'épaissit. La tempête secoue une rangée de pylônes électriques dans un champ. L'un d'eux cède et s'effondre, entraînant le suivant. Yuna voit arriver une voiture face à lui. Il klaxonne, allume ses pleins phares, mord sur l'accotement et évite de justesse une Honda Break.